petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Osons rêver l'avenir. La formule n'est pas de moi. C'est le titre de la session nationale des Semaines sociales de France à Versailles, du 26 au 28 novembre 2021, comme l'indique d'ailleurs leur site internet. Il est vrai que les politiques en ce moment ne nous font pas rêver. Ils ne génèrent pas d'émotions exaltantes. Peut-on rêver l'avenir sans tomber dans l'illusoire? Ou pire, le cauchemar des rabat-joie. Partons des préoccupations des Français en cet automne 2021. Revient souvent, sous les feux de la rampe, le repère d'une identité nationale enthousiasmante. Qu'est-ce qu'être français? On cherche, on se dispute. Pourtant, l'identité française est évidente dans le monde entier. C'est l'art de vivre. La France n'est-elle pas le pays de la gastronomie, des plus grands vins du monde, le pays de la parfumerie, des défilés de mode, d'un rythme de vie, d'un urbanisme, d'une diversité des paysages et des cultures régionales, d'une histoire avec ses traces architecturales, mais aussi toujours dans l'art de vivre? La France est le pays des 35 heures et de la politique familiale si enviée dans le monde. La France est la première destination touristique du monde. Alors, continuons de rêver notre art de vivre plutôt que de chercher des identités nationales clivantes et tristes. Une autre préoccupation des Français est le souci de la sauvegarde de la planète. Le progrès qui a fait rêver les 17e, 18e, 19e et même 20e siècles ne fait plus rêver car au lieu d'être le salut de l'humanité, le progrès s'avère être la destruction de la nature. Le père jésuite Teilhard de Chardin voyez dans le progrès scientifique, social et politique l'avènement d'une humanité pacifiée, rendue maître du monde et unie. L'évolution de la vie s'achève pour Teilhard de Chardin par ce qu'il appelle la christosphère. Teilhard meurt en 1955 et en 1955 aussi, Claude Lévi-Strauss publie son premier best-seller, Triste Tropique, où il montre que la nature et l'humanité vont à leur perte par l'épuisement des ressources et la pollution. Cette prise de conscience écologique, qui n'annule pas pour autant le rêve de Teilhard, redonne un élan à la quête du bien commun, la quête de la maison commune, plutôt que celle de la grande bouffe. L'urgence écologique amène aussi une certaine spiritualité, celle d'une transcendance de l'humanité lointaine, dans 1000 ans peut-être, humanité qui nous interpelle du fond de l'infini et nous délivre de nos soucis pathétiques à court terme. Un rêve nous aspire, celui de Laudato Si, du pape François. Osons aussi le rêve d'un nouveau modèle anthropologique plus vrai. que nous ont appris ces toutes dernières années avec le terrorisme et la crise sanitaire du Covid. Nous avons appris que nous sommes vulnérables. Un modèle d'homme d'hier se fissure. Celui de l'homme invulnérable, le modèle arrogant de l'homme fort, équilibré, battant. C'est ce que mettent en évidence la publicité, les médias, le monde politique, les top managers de l'économie, le sport, le showbiz. Il faut être des gagneurs. Tout un chacun transmet ce modèle et c'est ainsi que les parents incitent leurs enfants à être les premiers et pas seulement à être bons à l'école. Quand on veut massivement s'identifier à un modèle d'homme, eh bien, on exclut ceux qui ne correspondent pas à ce modèle. Michel Foucault, philosophe du XXe siècle, a montré comment le modèle cartésien, celui de Descartes, le modèle de l'homme rationnel et volontaire, avait entraîné l'enfermement des fous dans les asiles, alors qu'ils étaient jusque-là intégrés comme fous du village ou fous du roi. Aujourd'hui, le modèle de l'homme gagnant, rejetant les failles des faibles, les déprimés, les perdants. Mais justement, nous venons d'apprendre avec le djihadisme et le Covid que nous sommes tous vulnérables. Heureusement, il y a des forts, ne serait-ce que pour accompagner les faibles. Mais les forts ne sont que des faibles en sursis. Ils déclineront et mourront comme tout le monde. La vulnérabilité est universelle. Est-ce une mauvaise nouvelle? Ce n'est pas une nouvelle et ce n'est pas mauvais. En effet, la vulnérabilité de tous incite à la compassion plutôt qu'à l'arrogance. On observe souvent chez ceux qui ont souffert, ou d'ailleurs qui souffrent encore, la manifestation d'une épaisseur humaine, d'une grandeur d'âme, d'une dignité dans le malheur. La grande littérature, d'ailleurs, par exemple celle de Victor Hugo ou d'Émile Zola et de bien d'autres, insiste très souvent sur cette dignité et épaisseur humaine des faibles, des pauvres, des abandonnés. C'est bien la preuve que la dignité de la personne n'est pas relative à ses performances. Quiconque est quelqu'un qui compte. Les hommes d'aujourd'hui, et particulièrement les chrétiens, peuvent rêver de ce monde de la compassion et de l'égalité en dignité. De même, le chrétien, à l'instar du Christ, sait que seuls les vulnérables sont capables d'aimer, c'est-à-dire de pouvoir se donner jusqu'à en mourir. Charles Péguy disait que les dieux grecs, immortels, ne peuvent pas aimer car ils ne pouvaient pas se risquer dans le don de soi, faute justement d'être vulnérables. Osons rêver. Osons rêver un nouveau modèle de société. Les êtres humains sont plus ou moins liés par le contrat social de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de l'ONU en 1948, qui explicitement se réfère à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789 en France. Ne nous méprenons pas. même si tous les pays signataires n'y croient pas vraiment. Les droits de l'homme sont aujourd'hui la seule référence morale et juridique quasi universelle. Défendons-les politiquement, ces droits de l'homme. Mais le philosophe peut s'interroger. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 écrit, je cite, « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Fin de citation. La formule semble tout à fait justifiée. Et pourtant, à y regarder de plus près, cet article 4 perçoit autrui, hélas, comme une limite à ma liberté, comme un gêneur. Autrui est un gêneur. Tous les éducateurs, parents et enseignants, disent aux enfants que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, comme l'écrivait au XIXe siècle le philosophe anglais Stuart Mill, mort en France à Avignon. Mais on ne s'aperçoit pas en disant cela qu'autrui est considéré comme l'adversaire de ma liberté. Je dois être dans la méfiance et sur le qui-vive à l'égard des autres. Les droits de l'homme incitent à l'individualisme, comme d'ailleurs Marx l'avait dit. Heidegger, dont on ne sait pas trop pourquoi il adhéra au nazisme, insiste en fait pour dire que la réalité humaine est d'emblée ein in der Welt sein, c'est-à-dire un être dans le monde. La personne humaine est de part en part rapport au monde pour vivre et s'épanouir. Heidegger parle aussi de mit sein, l'être avec les autres comme identité même de chacun de nous. En France, Ricoeur et Lévinas, philosophes du XXe et XXIe siècle, expliquent avec pertinence que notre conscience est façonnée par nos rencontres avec les autres, par nos expériences relationnelles, et que chacun de nous est en quelque sorte producteur et produit de notre société. Autrui n'est pas l'adversaire de ma liberté, il est la condition de ma liberté. Autrui est celui devant qui je réponds de mes actes et qui ainsi fonde et reconnaît ma responsabilité et ma liberté concrète. Dès lors, nous devrions non pas nier, mais dépasser le contrat social des déclarations des droits de l'homme. Pas seulement la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, mais dire plutôt la liberté de tous commence quand chacun se sent responsable de lui-même, des autres et de la nature.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.